Bonjour à tous, ici Ambroise Carrière pour Culture Numérique, le podcast de Siècle Digital. Aujourd'hui, Christopher Wilberger, directeur général Europe du Sud de la licorne indienne Freshworks, répond à mes questions. Spécialisé dans les solutions SaaS pour la gestion de clients, Freshworks traverse, comme tout le monde, les turbulences liées au coronavirus. C'est donc l'occasion d'en apprendre plus sur la culture d'entreprise de cette entreprise indienne. Allez, go!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour Christopher.
Bonjour Ambroise, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Tu n'es pas à ta première expérience dans la tech, c'est moins qu'on puisse dire. Peux-tu nous faire un court résumé de ton parcours?
Oui, alors un court résumé d'un parcours qui a plus de 30 ans. C'est vrai que rien ne me disposait a priori de rentrer dans les technologies de l'information, ce que j'ai toujours pratiqué, puisque je suis ingénieur de formation plutôt en électronique et en chimie, mais j'ai toujours travaillé dans les sociétés technologiques américaines en passant... des sociétés comme Oracle ou IBM, en passant par EMC, et donc plus récemment, une société non américaine, qui est une société indienne qui s'appelle Freshworks.
Tu as principalement travaillé, comme tu l'as dit, pour ces entreprises américaines sur le sol français. Quelles sont les principales différences culturelles en termes de business que tu as pu remarquer?
Alors ça, c'est une excellente question, parce que j'ai même été amené à écrire un papier là-dessus lorsque j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, et on me demandait quelles étaient les principales différences culturelles. Et une de celles qui m'avait le plus frappé, c'est que les sociétés américaines, quand on commence une réunion, donc on est assis autour d'une table, on commence toujours par évoquer des sujets extrêmement bénins, la plupart du temps orientés autour de la famille. On ne peut pas commencer une réunion autrement, sinon ça serait considéré comme extrêmement agressif. À la différence de la France, où des nombreuses réunions que j'ai pu assister avec des sociétés françaises, vous n'êtes pas encore assis autour de la table, que déjà on commence à évoquer le sujet de la réunion, voire à rentrer dedans. Et ma dernière expérience, donc maintenant avec une société indienne, c'est encore différent, puisque dans la plupart des réunions, qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient en live, on va commencer par ce qu'on appelle un check-in. Un check-in, c'est que chaque personne autour de la table ne va pas dire forcément qui il est, sauf si les personnes ne se connaissent pas, mais va surtout dire deux mots. Le premier mot, ça sera son impression, enfin son sentiment du moment, dans quel état d'esprit il est, qui peut être triste, etc., pour X raisons. Il va dire une petite phrase à ce sujet-là, où il va être excité par la journée qui s'annonce, etc. Et le deuxième mot, ça va être autour de quelles sont les interférences qu'il a dans son esprit. Alors, par exemple, ça pourrait dire, aujourd'hui, je suis très excité par ce dont on va parler aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un sujet passionnant. Et deuxièmement, en revanche... une petite interférence, c'est que, par exemple, un membre de ma famille a le Covid, donc j'ai toujours ça derrière dans mon esprit. Ça pourrait être ça le début d'une réunion. Et personne ne va, au contraire des États-Unis, où forcément dans une réunion, les gens vont tous sympathiser et être compatissants avec la personne. On va passer à la personne suivante sans forcément relever ce qu'il a dit. Mais en tout cas, lors de la réunion, les gens autour de la table auront une impression de dans quel état d'esprit sont leurs interlocuteurs. Et ça peut changer parfois la dimension et la façon d'aborder la réunion.
Ouais, totalement, c'est drôle vu comme cela. C'est vrai que des fois on se doute pas que ça peut influer ce genre de différence culturelle, mais justement tout ce que tu as pu observer, est-ce que pour toi c'est aussi l'explication qui fait que aujourd'hui un continent comme les États-Unis ont leur licorne, ont des géants de la tech, et là où l'Europe mouline et n'arrive pas à mettre en avant un acteurs forts ou des acteurs forts?
Alors, il y a quelques acteurs forts quand même en Europe, quand on parle des licornes, ce que tu évoques plus spécifiquement. Bien entendu, les États-Unis, c'est le berceau, plus spécifiquement les côtes ouest et certains pans de la côte est qui génèrent aussi pas mal de licornes. Je pense que c'est plus dû, effectivement, de leur côté à cette espèce d'hégémonie économique qu'ils ont eue pendant très longtemps. C'est un petit peu rechallengé aujourd'hui, puisqu'on voit de belles licornes indiennes qui émergent, et Freshworks en fait bien entendu partie. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle tu m'avais invité aujourd'hui. C'est vrai que on voit de plus en plus de licornes alternatives, on va dire, à à la pensée licornienne mainstream qui vient la plupart du temps de la côte ouest des États-Unis.
Oui, parce que c'est ce qu'on voit, c'est que maintenant tu bosses pour un géant de la tech venu d'Inde. Est-ce que c'est symbolique d'un nouveau courant, d'une alternative aux géants américains et aussi chinois ?
Alors, ce qui est assez amusant quand même, c'est que lorsque j'ai quitté ma société précédente, une société américaine dans laquelle j'avais passé une dizaine d'années, tout naturellement, effectivement, les postes que j'envisageais étaient auprès de sociétés américaines dans le même domaine de ce que j'exerçais auparavant, c'est-à-dire la cybersécurité. Et la seule offre que j'ai retenue, c'est pour une société non américaine. C'est assez symptomatique, pas quelque chose que j'avais forcément envisagé auparavant, mais au fur et à mesure des entretiens que je passais avec cette société, j'en ai eu 11 avant de décider finalement de la joindre, j'ai trouvé une approche que je ne connaissais absolument pas, une approche très orientée humain, et non pas forcément simplement les compétences. Je me souviens que les licornes américaines que j'analysais, ou plutôt qui aussi évaluaient mon profil à l'époque, étaient essentiellement tournées sur mes compétences. La licorne indienne, donc que j'ai rejointe, on a passé peut-être un ou deux entretiens sur les compétences et le reste des entretiens, c'était constamment sur l'humain et la personnalité. Donc, je crois que c'est un peu différent. Elles ont une façon de voir les choses différentes. Peut-être que ça contribue à l'émergence de ces sociétés aussi. C'est qu'elles vont être essentiellement tournées sur l'humain et c'est ce qui m'avait charmé à l'époque. Pour te donner une perspective, Ambroise, on voit comment certaines sociétés américaines aujourd'hui réagissent au Covid par rapport à leurs salariés, et ce qui n'est pas forcément toujours pour le bonheur de leurs employés. Freshworks a une perspective totalement différente. Lorsque le Covid s'est déclaré, notre CEO a décidé trois choses. Et en fait, c'est à peu près voisin d'autres... Si je les cite, c'est à peu près voisin du mindset indien en général. Donc, notre CEO a décidé trois choses. Premièrement, on gardera tout le monde. Absolument personne ne sera licencié du fait du Covid, alors que on est juste passé quand même de 1500 personnes à 3000 personnes en 15 mois. Les trois derniers mois ayant vu 500 personnes nous rejoindre. Donc, on garde tout le monde. On embauche tous les gens à qui on a fait une offre, qui ne sont pas encore arrivés. On maintient les embauches. Et troisièmement, on ne met personne au chômage partiel ou à salaire réduit, etc., etc. Et les gens qui sont en période d'essai, bien entendu, on ne profite pas de cette période-là pour leur dire, ben, écoutez, on vous demande de partir aimablement. Donc c'est une perspective totalement différente. Le motto chez nous, si vous voulez, c'est ce que disait Guy Rich, notre CEO, c'est il a trois priorités: nos employés, nos clients et nos actionnaires. Et il précise dans cet ordre. Donc il va traiter d'abord ses employés du meilleur qu'il le peut, ensuite ses clients et enfin en dernier ses actionnaires. Et ça, je crois que c'est vraiment le secret des belles réussites indiennes. Je parle là, bien sûr, pour ce que je vis chez Freshworks, mais je vois ça un petit peu ailleurs dans la philosophie de travail indien.
Alors, c'est cela, c'est ce qu'on voit, en tout cas, de l'extérieur. Freshworks, il y a une culture d'entreprise assez forte, en tout cas, qui se veut être forte et qui veut se développer. Comment s'est exprimée cette culture d'entreprise pendant la période de chamboulement lié au coronavirus? Tu penses que ça a permis, justement, eh bien, en quelque sorte, de fédérer les collaborateurs entre eux, d'être solidaires? Est-ce que ça a été aussi, en quelque sorte, une action, un élément décisif pour bien vivre tous les chamboulements du coronavirus?
Alors, c'est assez surprenant pour quelqu'un qui est un peu un dinosaure comme moi. Je crois qu'Ambroise, on l'évoquait dans une autre conversation. C'est vrai que je ne suis pas un millénial, je suis un petit peu plus ancien dans ce marché et j'ai même vu dans mes stages d'ingénieur ce qu'on appelle des cartes perforées, l'ancêtre d'informatique. Donc, tu vois, j'ai une expérience qui recouvre différentes cultures, différentes sociologies. Nous sommes Freshworks, une société qui est issue du numérique. Donc déjà, on était très habitués à avoir un certain nombre d'outils qui nous permettaient de travailler à distance. Donc, on n'avait pas de challenge du côté des outils à employer qui nous permettraient de nous adapter à work from home ou alors maintenant peut-être work from anywhere, qui est la nouvelle tendance. Notre plus grand challenge qu'on voulait immédiatement adresser, c'est comment les gens qui sont habitués finalement à se retrouver aussi dans les bureaux vont réagir à ça. Le management plus ancien dont je pouvais faire partie pouvait penser « Non, il faut absolument que les gens soient présents autour de moi, sinon j'aurai aucun contrôle sur eux. » Et en fait, on s'est aperçu que les gens travaillent beaucoup plus, sont beaucoup plus dédiés à leurs tâches que à la limite que lorsqu'ils sont sur un lieu de travail, il y aura peut-être plus de distractions. Je lisais une étude récente de la Harvard Business Review qui était assez amusante, qui disait que finalement, on voit que lorsqu'on est autonome chez soi, on a 7% d'efficacité de rendement supplémentaire par rapport à travailler dans un bureau. Donc, la vieille pensance du management qui consiste à dire il faut que le manager ait un grip et une vision de ses salariés, de ce qu'ils font autour de lui en temps réel, donc d'où l'obligation d'un bureau, eh ben, elle est un petit peu battue en brèche par ce qu'on vit aujourd'hui. Et aujourd'hui, Freshworks est en train de reconsidérer tout son plan d'implémentation mondiale en disant que est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces bureaux dans le monde entier, de coworking, de co-sharing, etc. Est-ce qu'on pourrait pas avoir simplement ce qu'on appelle des base camps, c'est-à-dire, sous-entendu, vous êtes 100 dans un pays, bah, vous prenez un bureau qui ne peut contenir qu'une dizaine ou une quinzaine de personnes et le reste du temps, bah, les gens s'adaptent et travaillent un peu de n'importe où. On est vraiment en train de repenser, riche des enseignements du Covid, notre façon de voir le travail dans le futur.
Alors, comme tu l'as dit, il y a différents niveaux de priorité. Là, on a pas mal parlé de celui des collaborateurs, mais aussi celui des clients. Je suppose que votre attention s'est très vite dirigée vers vos clients afin qu'ils puissent adapter leurs outils pour eux-mêmes gérer l'expérience de leurs propres clients. Certains, peut-être, ont été obligés d'être en chômage partiel, d'arrêter leur activité temporairement. Comment vous avez pu accompagner vos clients dans ce contexte?
Alors, on les accompagne d'une façon qui est très très liée à notre motto, notre tagline. Notre tagline, c'est Customer for Life Software. Donc, on procure des softwares qui permettent à nos clients de se créer eux-mêmes des clients à vie. Et on veut que nos clients deviennent des clients à vie. Et qu'est-ce que c'est qu'un client à vie? Eh ben, c'est un client finalement qui dépasse la notion mercantile, une relation client. C'est une relation qui est d'amis. C'est-à-dire, on veut traiter nos clients comme on traiterait dans la vie de tous les jours nos amis. Et à nos amis, donc on ne raconte pas de bêtises, à nos amis qui sont dans la difficulté, on fait des efforts pour qu'ils soient moins dans la difficulté. Donc on a été extrêmement dans la compréhension et on a traité nos clients différemment en fonction des difficultés qu'ils avaient. Des secteurs qui ont été massivement impactés, on a bien sûr fait extrêmement attention à ne pas leur mettre une pression malsaine, ni commerciale, ni sur leur délai de paiement, ni sur des facilités autres. Et en fait, on les a accompagnés comme on accompagnerait nos amis. Les très petites entreprises qui ont été massivement impactées, pour lesquelles perdre un contrat, c'est parfois une question de survie. On a fait des offres où on offrait certains de nos produits gratuitement pendant 6 mois pour des TPE qui font de 1 à 20 ans employés, par exemple. C'est un certain nombre de facilités qu'on a mis en route pour faire en sorte que tout le monde sorte de façon solidaire et grandit de cette crise.
Alors là, on parle aussi de ce qu'ils ont déjà entre les mains, ça veut dire vos logiciels, vos services. Est-ce que demain, on pourrait imaginer que cette crise demande à ce que vous innoviez et que vous soyez en capacité soit de faire évoluer certains de vos outils, soit à créer de nouveaux outils pour faire face, en effet, à un nouveau mode de travail, à des nouveaux modes de consommation qui pourraient émerger?
Oui, alors effectivement, c'est une très très bonne remarque, puisque bien entendu, certains de nos outils ont été particulièrement adaptés à ce travail à distance. Je parle effectivement de... On a effectivement une offre historique qui est le service desk, donc globalement les centres de support clients, donc le software qui permet à nos clients d'adresser leurs clients, mais on a aussi une offre qui est donc l'IT Service Management, et globalement c'est le service informatique de l'entreprise au service de ses employés. Bien entendu, ces divisions dans les entreprises, l'IT service, la division informatique a été extrêmement mise à contribution pour supporter tous les salariés qui sont à distance. Et nos produits sont amenés à évoluer, bien sûr, dans un sens qui va permettre de gérer le travail à distance. Ils le sont déjà nativement, mais comme on récupère beaucoup de nos expériences clients pour faire évoluer nos produits, bien entendu, on apprend de cette crise pour que nos produits évoluent dans le futur. Nos produits vont aussi vers l'intelligence artificielle, c'est quelque chose dont il faudra tenir compte dans le futur, tout en gardant un peu d'humain dedans, parce que dans une crise comme le Covid, il faut rajouter beaucoup d'humain dedans.
Chris, quelle est ta vision de l'avenir? Est-ce que c'est plutôt positif? Évidemment, je parle de l'avenir proche, avec tout ce qu'on a vécu, avec la crise qu'on sait qui va perdurer dans l'économie, qu'on va traîner certainement comme un boulet là pendant un moment. Est-ce que tu penses que voilà, on va réussir à s'en relever? Si oui, comment? Et voilà, quelle est ton appréhension de ce que l'on vit là en ce moment?
Oui, alors il y a une façon très indienne de considérer les choses, qui est de dire « it is what it is », entre guillemets, ce qui se passe, ça se passe, ça nous dépasse, c'est une externalité. Donc, ce qui n'est pas très important, c'est ce qui se passe, mais ce qui est important, c'est comment on réagit à ce qui se passe. Donc, il n'y a globalement dans la vie pas beaucoup de façons de réagir à des événements, qu'ils soient heureux ou malheureux. Il faut y réagir positivement. Donc, effectivement, on ne cherche pas à se morfondre en se disant « Mon Dieu, comme c'était mieux avant, quelle est aujourd'hui la valorisation de la société, quels sera les nouveaux modes de vie ?» On sait que des nouveaux modes de vie et de travail vont s'imposer à nous et on essaie de prendre ça excessivement positivement. Bien entendu, certains impacts de l'économie certains points de l'économie seront impactés, d'autres le seront moins. On saura rebondir, en tout cas du côté du business, on rebondira de façon adéquate. Vous savez, il y a beaucoup de sociétés qui tirent leur épingle du jeu de cette situation. Nous, on essaiera de la tirer également, mais on voit tout ce qui se passe, non pas sous le point de vue d'un jugement positif ou négatif, mais sous le point de vue, c'est une externalité. Il faut y réagir et réagissons d'une façon positive.
Merci Chris pour ces mots. C'est rafraîchissant d'avoir un point de vue indien et un peu de philosophie indienne. En tout cas, on continuera à suivre évidemment l'évolution de Freshworks. N'hésitez pas à voir aussi nos articles sur siècledigital.fr à ce sujet. Et puis, je te dis à très bientôt Chris.
Merci, à très bientôt Ambroise.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.